Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés pour une nouvelle émission dans ce contexte toujours
intéressant
que M. Trump nous fait vivre, car de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, bientôt, je crois qu'il sait nous garder à la page et qu'il sait comment rendre nos journées et nos semaines excitantes.
En voilà. Tout cas, il donne du boulot aux journalistes et les commentaires et tout ça. Il fait du...
Certains d'entre vous n'auront pas manqué de se rendre compte, de noter que c'est aussi le retour...
Du pull.
Du pull moche.
Comment ? Je l'aime. Il aime beaucoup ce pull.
Voilà, non, c'est juste un petit taquinerie.
Ça fait partie du comique de répétition de l'Institut des Libertés.
Ça et le salaire gigantesque de Léonard.
Voilà, c'est deux choses sur lesquelles on a le droit de plaisanter.
On a le droit de plaisanter. Non, mais les couleurs fauvistes, dans un moment de printemps, est aussi quelque chose à envisager. Je trouve qu'on fait très peu de cas de ce ravissant pullover qui en plus est très dense, hein.
Elle est très dense, et puis c'est un truc de Burberry.
Voilà.
C'est pour vous dire si ça m'a coûté la peau des fesses.
Alors, aujourd'hui, un sujet qui nous touche tous, on va vous parler de la hausse du coût du pétrole et on va revenir sur une analyse en graphique, comme on sait le faire, du cycle énergétique. Alors, il n'a échappé à personne que depuis le début de cette guerre en Iran, le cours du Brent est allé vers le haut. Avec tout ce qui s'est passé cette semaine, on peut se demander si Monsieur Trump va pas nous faire un coup de taco géant. Est-ce que si finalement ce coup de poing sur la table va donner
qu'est-ce
qui se passe ?
Qu'est-ce qui se passe ? Bah, c'est personne n'en sait foutre rien. La question, c'est qu'il a bombardé. Bon, l'Iran a été bombardé. Et alors, il s'est passé un truc auquel personne ne s'attendait, c'est que du coup, l'Iran est allé taper sur les pays arabes. Ils sont pas, vous savez que les Iraniens sont pas des Arabes. Ce sont des Perses. Et donc, à la grande surprise...
Alors, l'histoire veut que ça soit sur les bases américaines situées dans les pays en question.
Ils ont aussi bombardé quelques raffineries et au hasard. Donc, il semble que les Iraniens, eux, se soient placés dans un truc. Si on fait monter le pétrole suffisamment, c'est ce qu'on va essayer de montrer, ils seront bien obligés d'arrêter. Tu vois, ils ont essayé de placer Trump devant les conséquences possibles de ce qu'il avait fait, quoi. Donc, on va voir ce qui se passe. Mais il n'en reste pas moins que le monde après cette crise est différent du monde avant. Parce que comme le monde avant, ils disaient tous, oh, du pétrole, il y en a partout, on sait plus quoi en foutre, il y a du gaz partout, regardez.
D'ailleurs, il y en a tellement partout qu'on peut même faire des trucs ridicules comme des moulins à vent et des miroirs magiques. Parce que des énergies alternatives qu'on ne peut pas stocker, ça nous paraît très bien.
Ça nous paraît très bien. Donc tout ça, c'était parfait.
Et puis, qu'à faire aussi, indexons le prix du gaz sur celui de l'électricité.
C'était comme ça, c'est pour foutre en l'air les Français qui a été fait par les Allemands. Bon, il y avait des tas de manœuvres habiles. Mais alors, ce qui se passe aujourd'hui, on en a parlé la dernière fois, c'est bien sûr que le prix du gaz va monter beaucoup plus. Mais surtout, le monde, je vais vous donner les chiffres parce que c'est un peu important, le monde consomme à peu près 102 millions de barils de pétrole par jour. Et en produit, la capacité de production est à peu près à 104. Donc, il y avait 2 millions d'excédents, ce qui faisait que tout le monde était tranquille. Et puis là, quand ils ont fermé le Golfe, il y a 20 millions...
Le détroit d'Hormuz.
Le détroit d'Hormuz, là, il y a 20 millions de barils qui passent. Et d'un seul coup, on s'est retrouvé avec un trou de 20 millions de barils, tu vois. Donc, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tellement de pétrole que ça, quoi. Et donc, le prix du pétrole est passé en quelques jours, littéralement de 60 à 110, quoi. Pouf, il a quasiment doublé en quelques jours.
Alors, hier soir, il est retombé.
Après les paroles de... Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des pays consommateurs se disent « Si j'ai 3 mois de stock, c'est pas assez. » La Chine, par exemple, a plus d'une année de stock. Donc, ils avaient plutôt bien anticipé. Mais des pays comme Taïwan n'avaient pas des masses de réserves. La Corée non plus. Donc, ça veut dire que dans les mois qui viennent, la plupart des pays vont rebâtir au maximum leur stock de pétrole. Donc, la demande ne va pas être de 102, mais peut-être de 107, 108, et on n'en fait toujours que 104, tu vois. Je veux dire, donc, comme vous le savez, à l'Institut des Libertés, nous, on considère que gérer dans la partie gestion de nos conseils, la partie financière en quelque sorte, on a toujours dit que il fallait toujours avoir au moins 25% de valeurs pétrolières, d'énergie, etc. dans son portefeuille. Et aujourd'hui, dans les indices, alors qu'en 1983, quand le pétrole a fait son plus haut, le pétrole représentait 30% de la capitalisation boursière aux États-Unis, aujourd'hui, il n'en représente plus que 3%. Donc, les gens qui achetaient l'indice Standard & Poor's en s'imaginant qu'ils étaient bien diversifiés, ils vont se retrouver en culotte courte, parce que ben, s'il y a d'un seul coup une crise sur le pétrole, comme on l'a vu, ben, ils ne sont pas du tout protégés, quoi. Nous, on a recommandé à tout le monde d'avoir au moins 25%. Donc, il va y avoir un monde avant cette crise et un monde après cette crise et peut-être une nouvelle façon de regarder le monde. Et si vous regardez la Chine, si vous regardez la Corée, si vous regardez tous ces pays-là, être trop dépendant du pétrole, trop dépendant du Moyen-Orient, c'est dangereux. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Bonne question, ils vont utiliser du charbon. Donc on va sans doute assister à l'immense renaissance du charbon qui déjà, l'année dernière, on a brûlé le plus de charbon qu'on avait jamais brûlé dans l'histoire, mais c'est rien par rapport à ce qui va se passer.
Oui, mais quand tu dis on va rebrûler du charbon, ça va être dans des pays où les écologistes ne cassent pas les pieds de tout le monde. En France, on ne peut pas rebrûler du charbon.
Je peux dire, en Allemagne, ils ont commencé. Pourtant, en Pologne, ils en brûlent un paquet parce qu'ils ont plein de charbon.
Mais est-ce que la population est au courant ou est-ce que ça se fait chez les industriels et les autres font semblant de ne pas voir ?
La population, elle n'aime pas avoir froid en hiver. Hein. Donc,
j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte de fausseté là-dedans entre ce qui est fait réellement et les bouchons en plastique qu'on achète, qu'on accroche aux bouteilles.
Je te signale que le président Trump a déclaré officiellement que tout ça, c'était du pipeau, le réchauffement climatique, et qu'il a annulé toutes les mesures. Donc, États-Unis vont brûler du charbon, c'est
que
sûr.
Que les États-Unis aillent brûler du charbon, j'ai aucun doute.
Il va rester que la France.
La question, c'est l'Europe. C'est que je me dis, nous, on va continuer à nous enquiquiner avec les bouchons sur les bouteilles et comment faire du compost, alors que l'entièreté de la planète va se remettre à utiliser du charbon. Et que nous, on a des bonnes mines de charbon qu'on pourrait utiliser.
Non, nous, on n'en a plus.
On n'en a plus dans la Ruhr, on peut plus trop.
En Allemagne, ils en ont, mais en France, on n'en a jamais eu beaucoup. Mmh. Et donc, on n'en aura pas.
Non, quand je dis nous, là, c'était dans une idée européenne, dans l'exploitation de la Ruhr.
Tu peux penser que des pays, l'Angleterre, ils sont à peu près aussi cinglés que nous, avec zéro, d'arriver à zéro CO2, là. L'Allemagne, ils viennent de réélire des écologistes dans le bas de Württemberg, ce qui est très étonnant. Et puis les Français, on est gouverné par défaut aussi. Donc il reste le noyau dur, c'est la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. C'est les trois crétins essentiels, quoi. Et c'est eux qui vont, à la limite, à la fin, payer la note des pots cassés, puisque... Donc, on voit bien ce qui va se passer. Aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer, dans le fond, pourquoi l'énergie est importante. Quelle est la relation entre l'énergie et les marchés financiers, en quelque sorte. Vous voyez, c'est un peu un... Alors, à moins que tu aies d'autres questions à poser maintenant, je vais commencer.
Mais non, vas-y.
Bon, alors, je prends le premier graphique, qui est un graphique qui remonte à un peu plus d'un siècle, allez. Et vous voyez, là, c'est le Standard & Poor's 500, l'indice boursier américain, divisé par le prix de l'or. Tu vois, avec la fameuse moyenne à 7 ans, qui est la ligne rouge. Bon. Et des périodes assurées roses, là, que tu vois au milieu, c'est des périodes où le prix du pétrole monte plus vite que le Standard & Poor's, c'est-à-dire où on ne réussit pas à transformer l'énergie de façon profitable.
Pour un système capitaliste.
Donc, vous perdez de l'argent, de quelque sorte. Et vous voyez que les périodes roses correspondent à peu près au moment où on est sous la ligne noire et sous la ligne rouge, tu vois. C'est-à-dire que il y avait une espèce d'adéquation depuis un siècle entre l'or et le pétrole. Mmh. C'est-à-dire que, en quelque sorte, le prix de l'or te signalait qu'il y avait un pet qui allait arriver sur l'énergie. Tu vois, c'était le...
Mais ça, on l'a déjà vu quand on étudiait l'or et on a déjà fait des ratios or contre,
voilà,
contre
pétrole, etc.
Et alors, justement, pour passé, mesurer l'efficacité.
Voilà, alors ce qui s'est passé, c'est que là, récemment, en 2022, 2021-2022, etc., le pétrole était beaucoup monté, donc on rentre dans une petite période rose, tu vois. Et puis on en sort, parce que elle n'est pas durable, c'est donc un faux signal, comme on en a eu un ou deux, comme on en a eu un, par exemple, en, je regarde ça, 1991, là, vous voyez, tu vois, il y a un faux signal, ça arrive. Et puis ensuite, à ma grande stupéfaction, la ligne noire se pète la gueule, comme si on rentrait dans un grand marché baissier, tu sais, comme celui qu'on a eu en 1930, ou comme celui qu'on a eu de 1970 à l'an 1980, là, tu vois, énormes baisses. Et le prix du pétrole reste très bas. Alors je regardais ça, je me disais, bah, tiens. Donc on a une grande baisse qui n'est pas d'origine énergétique. Tu vois, donc j'étais un petit peu troublé, je me disais, ben tiens, qu'est-ce qui a pu coller ça, que pourquoi le marché se pète-t-il la gueule alors que l'énergie est bon marché, tu vois, c'était un peu un truc, je me disais, j'avais mis un gros point d'interrogation, me disant, mais pourquoi, ben, c'était peut-être juste peut-être de décalage de 6 à 9 mois ou d'un an entre la réalité, tu vois, peut-être l'énergie est en train de, tu sais, le cycle à 30 ans, tout ce qu'on a beaucoup dit, peut-être... C'est que l'énergie est restée trop bas de façon artificielle parce que tout le monde pensait qu'elle allait rester bas jusqu'à la fin des temps.
Mais pourquoi on aurait pensé ça?
Parce que si tu lisais tous les commentaires faits sur l'énergie, tout le monde te disait qu'il y avait de l'énergie à ne savoir qu'en foutre. Tout le monde pensait qu'il y avait du pétrole partout, du gaz partout, donc il n'y avait aucune raison de se faire des soucis sur l'énergie. Mais les marchés ont ainsi fait que ce que pensent les gens, ça ne les intéresse pas des masses. Mmh.
Et
l'or est monté comme si l'énergie était rare. Et maintenant, elle est en... l'énergie, on se rend compte, elle est peut-être plus rare qu'on le pensait. Tu vois, c'est... Alors, j'ai regardé ça, bon, ça, j'ai écrit des papiers en disant, je comprends pas, mais enfin, voilà, ça... Donc, on a commencé une grande baisse, qui est toujours une mauvaise nouvelle. Et alors, je voudrais vous montrer maintenant... Vous voyez, je voudrais bien que vous compreniez que ça, c'est... une espèce de tentative que j'essaye toujours de faire, de savoir, il y a deux sortes de baisses dans les marchés. Vous voyez, vous avez ce qu'on appelle des bear markets, les marchés baissiers. Hein. Alors vous prenez la période 1960, à peu près, 1955 à 1970. Et tu vois, il y a des tas de marchés baissiers où ça se pète la gueule, comme ça, ça gigote, mais ça casse pas la moyenne mobile, tu vois, c'est des pauses qui rafraîchissent en quelque sorte, mais quand tu es au milieu tu te dis, oh là là, je suis ruiné, tu vois, mais c'est très désagréable, mais finalement ça n'a aucune importance. Et puis t'as les grandes baisses où tu passes, tu vois, où tu perds 50, 60 ou 80%, et ça c'est autre chose. Donc je dis, en fait il y a deux sortes de marchés baissiers. Les marchés baissiers parce qu'il y a un peu d'inflation, il y a eu n'importe quoi, une récession, tu vois, ça n'a pas beaucoup d'importance,
comme Lehman Brothers.
Et puis il y en a d'autres où c'est tang.
Bah oui, là, les tang et tang.
Et t'as eu, dans le fond, t'as eu trois immenses marchés baissiers qui ruinent une génération.
Bah bien sûr.
Tu vois, ça, chaque fois, ça ruine une génération. Et je me disais, il y a un quatrième qui a commencé, je comprenais pas très bien pourquoi. Ben, c'est peut-être encore une fois pour l'énergie, c'était juste un effet de décalage dans le temps, quoi. Mais enfin, il semble bien qu'un quatrième ait commencé, parce que il y a quelque chose qui se passe qui est pas bien normal, là. Donc, je vous demande, tu prends la ligne noire, tu vois, pas la ligne noire, tu prends le prix du pétrole, le Standard & Poor's divisé par le prix du pétrole, tu vois, c'est-à-dire le ratio qui te fait les lignes roses, là, tu vois, quand il est en dessous de la moyenne mobile des ordres, tu prends ce ratio, marché des actions sur prix du pétrole, et tu calcules sa variation sur 12 mois. Tu vois, tout ça, c'est pour essayer de comprendre, encore une fois, l'économie, tout se fait à la marge. C'est-à-dire que c'est les changements qui comptent. Alors, tu vois, ça, c'est le prix du pétrole divisé par le marché des actions. et la variation sur 12 mois. Et alors, tu vois que quand ça monte au-dessus de 50% sur un an, c'est-à-dire une bonne hausse, quoi, tu vois, vraiment un truc, tu vois, le 50 à la gauche, là. Bon, t'as l'énorme récession de 74, en 70, et elle est créée aussi curieux que ça paraisse, là, par la guerre du Yom Kippour.
Oui.
Donc, le prix du pétrole, il monte pas par hasard, quoi, tu vois ce que je veux dire, c'est le Yom Kippour, bon. En 1978, ça monte comme ça, c'est le remplacement du Shah par l'Ayatollah Khomeini. Tu vois, donc là aussi, boum, mais t'as aussi une énorme récession. Et puis tu vois, le prix du pétrole monte beaucoup en 87, et cette fois-ci, c'est pas le marché des actions qui se pète la gueule, c'est le prix du pétrole. On passe de 30, tu vois, le marché s'écrase, bon. En 1990, bon, le prix du pétrole monte, il y a une récession. Ça, c'est la première guerre du Koweït.
Du Koweït.
Tu vois? Donc, chaque fois que tu regardes ces pics, tu te dis, ou c'est qu'il y a eu un AVC, tu vois? Il y a eu quelque part, tu vois, tu as la faillite de l'Asie, donc en 98. Mm-hmm. Tu as le crash de l'Internet en 2002. Tu as la récession, la grande crise financière de 2008-2009, suivie par la crise européenne, tu vois. Tu as, en 2016, ça va très mal en Europe, on est obligé de faire le QI. Je sais pas, tu te souviens, où on commence à mettre les taux d'intérêt à zéro et après à imprimer comme des malades. Bon, là, il y a le coup où le pétrole va négatif, donc la hausse est absolument monstrueuse après, mais c'est juste un effet de marché, ça c'est un truc un peu à part. Et puis ça y est, la ligne rouge a l'air de recommencer à monter. Alors moi, ce qui me fout la trouille, si elle reste à zéro ou aux alentours de zéro, comme ça se passe de temps en temps, je me fais du souci pour rien. Mais si ça continue, si le pétrole reste à 80, dans 3 ou 4 mois, on sera à 25 ou à 30, tu vois, ici. Mmh. Donc, on commence à se rapprocher de l'endroit où j'ai la trouille, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ne sous-estimez pas l'impact qu'une variation des prix du pétrole peut avoir sur l'économie et les marchés financiers. Ça, c'est vraiment la première des choses. C'est quand le... Je sais pas si tu as remarqué, mais depuis un an et demi ou deux ans, chaque fois qu'il y avait un pet quelque part, on disait ça n'a aucune importance, parce que dans le fond, bon, il se passait quelque chose aux États-Unis, des droits de douane, etc. Mmh. Ça n'avait pas d'importance sur le prix de l'énergie. Mais à partir du moment où le prix de l'énergie commence à bouger, je commence à fouetter.
Oui, bien sûr.
Les trucs politiques, les guerres qui se passent, l'Ukraine, tout ça, ça avait eu un petit impact au début, mais ça n'en a plus maintenant. Donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est que s'il y a un truc qui me fout les jetons, c'est le pétrole le pétrole et le gaz qui se mettent à bouger.
Oui, parce que pour ceux qui ont vu l'émission d'avant, la première sur l'Iran qu'on a faite avec Charles, ça fait partie des grains de vérité de Charles sur les marchés. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, en tant que vieux briscard de la bourse, à chaque fois qu'il s'est pris des culottes courtes, c'était quand il n'avait pas assez de valeur énergétique dans un portefeuille. Et le fait de ne pas en avoir fait que vous pouvez avoir une perte tellement gigantesque qu'une vie ne suffirait pas.
Vous pouvez perdre 50, 60, 80% de votre fortune. Parce que ce qui se passe à ce moment-là, le prix de l'énergie monte. Et qu'est-ce qui va douiller? C'est des types qui étaient déjà presque en perte avec un prix de l'énergie bas. Et donc, quand le prix de l'énergie monte, t'as toute une partie de l'économie dont tu pensais qu'elle vasouillait, mais enfin, il n'y a pas de... qui d'un seul coup se met à perdre du fric, et t'as des pans entiers de l'économie qui s'écroulent. Dans les années 70, ça a été les aciéries, ça a été la chimie lourde.
Là, le problème qu'on va avoir, c'est que aussi sont corrélés au prix de l'énergie des choses comme l'agriculture, qui déjà est subclaquante dans notre Europe.
Exactement, mais par exemple, l'agriculture aujourd'hui, il y a un gros problème qui se précise, qui va arriver. C'est qu'ils ont besoin d'engrais. Or, les engrais, ça n'est que de l'énergie transformée. Alors là, s'il y a un truc qui est que de l'énergie transformée, et les prix vont monter... D'où le problème pour l'Inde aussi.
Parce que c'est des minerais, on a besoin d'une activation...
C'est beaucoup, donc c'est beaucoup de transformations chimiques. Et ben, si le prix de l'énergie monte, le prix des engrais va monter, et donc à l'arrivée, le prix de la bouffe va monter. Donc si l'énergie et la bouffe montent, tu connais ma thèse sur les pauvres gens qui... un tiers, un tiers, un tiers, c'est un tiers pour la bouffe.
Oui, c'est-à-dire ce que tu appelles le revenu gilet jaune. Les gens les plus pauvres, déjà,
ils prennent un pet parce que remplir leur diesel, ça leur coûtait plus cher. Et si en plus, la bouffe se met plus chère, ils vont être déjà, ça fait 20 ans que leur niveau de vie stagne ou baisse. Donc, un pet énergie. Alors, je suis pas sûr qu'il va continuer. Mais tu comprends, je suis alerté, quoi.
Oui, bien sûr.
Je suis alerté. Et ici, avec Didier, par exemple, Didier qui gère des portefeuilles de gens qui lui ont confié, ça, c'est leur droit. Le lundi matin, après l'attaque, là, il a vendu 50% tout de suite. En se disant, bon, ben les gars, c'est-à-dire que le risque devient asymétrique. Tu te dis, je vais peut-être gagner 3, 4% ou 5% si rien ne se passe. Mais si ça a un vrai pet énergétique, je vais perdre 50. Donc, tu ne vas pas rester sans bouger, quoi, tu vois.
Oui, je comprends très bien.
Alors, dans les portefeuilles de l'Université de l'Épargne, nous, ce qu'on a, c'est qu'on avait déjà mis 25% de valeur énergétique.
Dans la LADA.
Et 25% d'or. Et puis, on avait des obligations en yens, je montrerai pourquoi. Et puis, comme ça, on ramasse.
La bourse asiatique, comme toutes les bourses, ont pas fait bien. Mais grâce au ciel, un portefeuille, encore une fois, se conçoit avec ces quatre actifs. Et on ne regarde pas une position par une position.
Mais ils ont baissé d'1,5% ou de 2%.
Position du portefeuille dans son entièreté, elle, est toujours positive. Très bien. Donc, encore une fois, c'est un portefeuille qui se conçoit dans un ensemble.
Alors, pour expliquer bien, encore une fois, vous prenez le graphique numéro 3, qui s'appelle « Impôt énergétique et multiples courts bénéfices Schiller pour le standard N pour 500 ». Alors, accrochez-vous, parce que quand même, c'est pas une leçon simple, parce que c'est une leçon, si vous voulez, qui... où il y a des éléments importants qui bougent, et qui bougent de façon substantielle, ce qui fait que on parle pas d'un mouvement de 10%, quoi. Ce qui me fout la trouille, c'est qu'on risque d'avoir soit rien du tout, soit moins 50. Donc, si vous voulez, mon attitude n'est pas du tout la même. 10%, je dis, je m'en fous, je ne sais pas faire. 50, ça me gêne, quoi. Alors, là, vous prenez la richesse créée aux États-Unis, le PIB.
Mm-hmm.
Bon. Et là, vous divisez le PIB, c'est-à-dire la richesse créée, par le prix du pétrole. Ça te donne la courbe noire. Et tu vois très bien que la ligne rouge, c'est simplement le Schiller PI, c'est-à-dire le multiple court bénéfice. Quand le Schiller PI est haut, la ligne rouge, ça veut dire que tout le monde est optimiste. Quand elle est basse, ça veut dire que tout le monde est pessimiste, c'est-à-dire que la croissance a été très mauvaise depuis un certain nombre d'années, etc. Ben, vous voyez comme ça, vous regardez, et vous dites, ben, elles se ressemblent beaucoup, ces deux courbes, quand même. Hein, et ce que vous voyez, c'est que chaque fois que le prix du pétrole monte plus vite que le PIB, donc la ligne noire se met à baisser, c'est une augmentation d'impôts. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu as une partie de la richesse créée, si tu es un pays qui n'a pas d'énergie, qui n'est pas producteur d'énergie, que tu files au Moyen-Orient, tu vois. Donc c'est une augmentation d'impôts massive qui est faite par les pays producteurs de pétrole sur les consommateurs. Et en principe, les augmentations d'impôts, ça ne t'enrichit pas, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça t'appauvrit. Et comme le pays s'appauvrit, il y a des tas de gens qui sautent et ils s'appauvrit encore plus. Donc, c'est un effet cumulatif. Et tu vois, la ligne noire, là, elle était... Donc, je ne me faisais pas trop de soucis parce que les lignes noires, on était très haut. Mais j'avais signalé aux gens quand même je commençais à trouver que le rapport, le pétrole était très très bas par rapport au PIB, c'est-à-dire que la ligne noire était très très haute et que la ligne rouge aussi était très très haute. Quand tu y vois historiquement, il y a un effet de rappel à la moyenne, on était quand même très très au-dessus de la moyenne.
Mmh.
Et là, si le prix du pétrole monte, la ligne rouge va suivre la ligne rouge que j'ai tracée, là, une espèce de flèche, là. C'est-à-dire que le Schiller PI va baisser beaucoup.
Oui.
Et donc, vous risquez de vous ramasser une énorme gamelle sur les actions. Donc, je ne dis pas que ça va se produire, mais je dis, y a des éléments qui pourraient penser. En tout cas, la probabilité que les marchés aient signé à une hausse des prix du pétrole il y a 3 mois, c'était zéro. Mmh. Aujourd'hui, c'est pas zéro. Tu vois, c'est pas zéro. Et même chez Gafcal, maison dans laquelle moi j'avais écrit des papiers en disant qu'il faut être cinglé depuis 3-4-5 mois pour avoir que 3% de pétrole dans le portefeuille, il y avait des gens qui me regardaient avec un drôle d'air, quoi, en me disant ce vieux con, il n'a pas compris qu'on est passé dans une période où l'énergie sera abondante toujours, tu vois.
Oui.
Tu vois, c'est
la fin. Mais la question aussi, c'est que à la fin de la journée, si on arrive dans un monde, on le répète, d'énergie rare.
C'est pas d'énergie rare, c'est d'énergie qui va devenir chère parce que les gens se rendent compte que l'énergie abondante, c'est aussi une fin de la globalisation. C'est-à-dire que, dans le fond, tu pouvais toujours avoir accès à de l'énergie pas chère parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui t'abordait.
Alors attends, laisse-moi aller au bout du truc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on revient dans une idée d'énergie qui va être vue comme un stock qui va être tenu par les pays. La Chine va avoir son stock stratégique. Les États-Unis vont avoir son stock stratégique et ainsi de suite. Donc on sort de la globalisation telle qu'on en parle.
Bien sûr.
Chaque pays va avoir quelque part la nécessité désormais de faire un stock de un an, de ou 3 mois, ou en tout cas un peu plus.
Et tu retrouves la vieille idée que je développe toujours, c'est que le rôle d'un gouvernement, c'est de rendre son économie antifragile.
Voilà.
Donc, et les stocks, c'est un élément d'antifragilité.
Et quelque part, donc, cette nécessité de stock et cette nécessité d'avoir une énergie qui devient en tout cas peut-être pas rare, mais ventilé de façon différente, va forcément avoir un impact sur les deux grands locomotives aujourd'hui du S&P 500, que sont l'intelligence artificielle et que sont les bitcoins, enfin les monnaies alternatives.
Mais évidemment
pas. Toutes les deux sont sourcées par une énergie à l'origine abondante et pas chère. C'est ça
abondante,
le business
pas
model.
Pas chère, et oui, absolument. Et c'est là où elle a... C'est tout à fait exact ce que tu dis, c'est-à-dire que on est en train de détricoter les mythes, si tu veux, que finalement le commerce international, c'est très bien, ça marche toujours, la loi des avantages comparatifs et tout. Mais à partir du moment où la puissance militaire américaine empêche, par exemple, des pays comme le Venezuela ou l'Iran d'exporter leur pétrole, tu te rends bien compte que pour des gens qui avaient besoin de ce pétrole du Venezuela ou de l'Iran, ils ne sont pas les bénéficiaires de la globalisation heureuse, tu vois ce que je veux dire? Ils sont donc,
ouais,
quelque part,
façon...
ça va forcer les États à essayer d'aller vers une politique d'autosuffisance énergétique, même si elle est plus chère.
Mais de toute façon, je pense que cette question avait déjà été apportée sur la table à partir du moment où l'Ukraine est arrivée. 2022 arrive et quelque part, on explique à M. Poutine qu'il s'en est dessous de bras et que son gaz, on n'en veut plus. Aujourd'hui, il rigole en disant « Moi, mon gaz, je vais le donner qu'aux personnes qui sont gentilles avec moi dans la cour de récré, à savoir
Mais
l'Inde et la Chine. »
S'il coupe le gaz aujourd'hui
à l'Italie,
à l'Europe et à l'Italie, c'est la bérésina. Parce que nous, on a... Parce que si les États-Unis, par exemple, allez, faisons un scénario, les États-Unis, le prix du gaz continue à monter, donc c'est très inflationniste pour les États-Unis, les élections arrivent.
Les élections de midterms arrivent, et on rappelle que Hoover, Carter... Biden, dans une certaine mesure, avec la dinde Kamala Harris, à chaque fois, aucun gouvernement ne peut gagner des élections.
Si le prix de l'essence monte.
Voilà. C'est
que bête comme tout. Et donc, si, alors à ce moment-là, quelle va être la tentation des crétins qui nous gouvernent? Ben, ça sera peut-être de bloquer les prix.
Ben, en général, c'est ce qu'avait fait Nixon.
Et d'empêcher les gens d'exporter. C'est-à-dire que, puisque le prix du gaz monte beaucoup, parce que les Américains en exportent beaucoup, ben, le président peut dire, si ça vous fait rien, on va garder le gaz pour nous à la maison, quoi. Mmh. Ben, nous, alors, si les Américains gardent le gaz à la maison et qu'on a plus de gaz russe, il va falloir qu'on envoie des lettres de supplication à l'Algérie, hein, mais c'est pas... Mais en même temps, ils en ont pas tant que ça, hein. Il y en a beaucoup, mais ils ne savent pas le trouver. Alors ça, c'est autre chose. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est que ça, c'est une augmentation d'impôts, en quelque sorte. Bâtir des trucs, des voitures, des avions, etc., devient beaucoup plus cher. Donc, c'est une augmentation d'impôts qui est par nature inflationniste. Donc, quelque part, ça pose des questions sur les taux d'intérêt qui sont bas.
Et ça va poser aussi toute une question sur le secteur touristique.
C'est tout à fait évident. Tout ce qui est,
tout ce qui est secteur touristique qui dépend terriblement de l'énergie.
Mais regardez ce qui s'est passé, si vous reprenez mon graphique sur l'impôt. Vous voyez que de 1970 à 1980, ça a duré 10 ans. Bah, c'était pas vraiment la joie dans le tourisme mondial. Les compagnies aériennes se pétaient la gueule. Enfin, ça a été affreux, quoi. Et il y a eu plein de faillites. L'Amérique latine a sauté dans les années 80. Mmh. Donc, si on rentre dans une période de baisse comme ça, comme la ligne noire en 70 à 80, ben il va y en avoir des faillites. Hein. Et ça pose la question aussi que si les rentrées fiscales baissent parce que l'économie ralentit, nous, il y a un certain nombre de pays dans la France qui ont des déficits budgétaires monstrueux. Quoi. Comment vont-ils les financer avec des intérêts qui vont monter ?
Dans une certaine mesure, bien qu'il y ait le privilège du dollar, j'ai envie de dire, même question avec le double déficit des comptes courants pour les États-Unis.
Absolument, absolument. Surtout qu'ils sont plus la monnaie de réserve, il n'y a plus de monnaie de réserve. Donc, pour essayer de résumer ce qu'on essaie de dire, on essaie de dire il y a des changements cycliques comme ça, qui ne sont pas très importants, et puis de temps en temps, il y a un changement structurel. Si on est en train de marcher dans un changement structurel sur l'énergie, je suis bien content qu'on ait les portefeuilles qu'on ait à l'Université d'Épargne, parce que ceux-là, ils passeront. Mais il faudra pas s'abaisser. Je vais continuer. Il faudra pas penser qu'on va continuer à gagner du 14, du 15% comme on l'a fait depuis un an et demi. On va ramer pour gagner 3 ou 4 en termes réels. Tu vois ce que je veux dire? C'est que,
ben, si vous voulez, si on rentre encore une fois dans nos quatre cadrans en haut à gauche, c'est-à-dire dans
la stagflation, il faut pas perdre de fric.
Voilà, en général, c'est le moment où il est acquis qu'il faut se mettre en cash de la meilleure monnaie. Donc l'alternative est en cash de la meilleure monnaie, sachant que vous mettre en cash de la meilleure monnaie, c'est en gros faire la tortue. Mais vous ne gagnez rien. Donc c'est véritablement faire le gros dos en attendant que ça passe.
Alors on aura bien gagné de l'argent, puisqu'on est en hausse, je ne sais plus combien, 14 ou 15%. On est passé de 100 à 132 dans l'espace de 18 mois, donc bon, c'est très bien. Mais les gens qui sont habitués à gagner du 10 ou du 14%, et alors il y a aussi autre chose qui me fout la trouille, c'est comme on a gagné beaucoup d'argent sur des actions, partout, bref, il y a beaucoup de gens qui ont emprunté sur ces actions.
Ah, ceux qui ont fait du levier.
Ils ont fait du levier peut-être pour acheter les actions, ce qui est déjà dangereux. Mais d'après ce qu'on me dit, il y a toute une série de gens fortunés qui, dans le fond, ne déclarent pas de revenus et empruntent auprès de leur banque en mettant en garantie les actions qu'elles ont, tu vois. Excellente idée, parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas de revenus, donc vous vivez sur de l'argent que vous avez emprunté. Mais si vos actions pètent la gueule, la banque, elle va arriver, elle va taper à la porte en disant « Dites-moi, vous devriez remettre de l'argent parce que les actions ont baissé. »
On a reçu un jeune homme au bureau qui va s'occuper de notre intelligence artificielle et dont les parents avaient fait ça sur de l'immobilier de bureau dans les années 90.
Ils ont tout perdu en un an.
Voilà.
Le
travail d'une vie. Donc,
parce que là, il y a eu la crise des bureaux, c'était la crise créée de toutes pièces par cet animal de... gouverneur de la Banque Centrale de l'époque, M. Trichet, qui a ruiné une grosse partie de la bourgeoisie française. Donc, c'est des moments importants. Alors maintenant, tu as habile transition, tu as parlé, il faut se mettre dans une monnaie. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a, dans le fond, le prix du pétrole qui monte de 40 ou 50% en très peu de temps, sur les taux de change, là? Alors, je vais vous montrer deux ou trois graphiques qui sont... la première des choses... Alors, ça, c'est ces trois graphiques que je voudrais montrer. Ce sont des graphiques, comment dire, historiques. Je vous montre ce qui s'est passé à chaque fois quand le prix du pétrole est beaucoup monté. Ça ne veut pas dire que la fois d'après, ça va continuer.
Oui.
Ça, c'est ce qu'on espère. C'est un peu la façon dont je travaille. C'est je regarde ce qui s'est passé dans le temps. Et si les mêmes conditions sont réunies, je me dis, ben, ça va peut-être se passer pareil. Donc, vous voyez, là, c'est l'indice du dollar. Alors, l'indice du dollar, c'est que c'est coté à Chicago. Ça s'appelle ICE. Et c'est dans le fond une espèce de moyenne pondérée du dollar contre un nombre de... Il y a beaucoup d'euros, du yen, de la livre sterling, c'est une espèce de moyenne pondérée de tout ça. Et la partie, les parties roses, comme ça, avec les qui sont aussi signalées par les espèces de petites pointes en bas à droite, c'est quand le prix du... en bas, là, vous voyez l'espèce de petit truc noir qui monte, là, les petites dents qui sortent, là, c'est quand le prix du pétrole est monté de plus de 40%, en 6 mois. C'est-à-dire, je dis 40% en 6 mois. La volatilité moyenne du pétrole, c'est à peu près 25%. Donc, si tu as une volatilité qui est 50% supérieure à la volatilité moyenne, c'est qu'il se passe un truc anormal, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Alors, donc c'est noir et c'est rose et noir en dessous. La plupart du temps, dans ces périodes-là, le dollar monte. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens empruntaient du dollar. Ils commencent à du moins à le rembourser, ils le rachètent, tu vois, c'est les périodes faciles, t'empruntes du dollar, et puis tu vas acheter des trucs en dehors des États-Unis. Ouais. Et puis les périodes difficiles, tu dis, vain Dieu, je ferais mieux de rembourser ma dette en dollars. Donc, il est probable que le dollar va monter. Voilà. Si ça continue.
Si ça continue.
La deuxième chose, c'est que tu te dis, il va monter maintenant, mais il va monter contre quoi ? Alors. Ça, c'est le DM, le Deutsche Mark, l'euro, hein, c'est la même chose.
Fortunately.
Oui. Voilà, dans les mêmes périodes rouges, c'est là. Et vous voyez que, à chaque fois, après une période rouge, là, ben, l'euro, il se pète la gueule plutôt bien, quoi. Vous voyez, vous avez des grandes baisses qui se passent. Vous voyez, la ligne noire qui baisse, ça veut dire que. Le dollar monte, hein, ou que l'euro baisse, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire que l'euro risque de baisser. Mais alors si je regarde les autres monnaies, je n'ai pas mis le graphique ici, celui qui se viande le plus à chaque fois, c'est la livre sterling. tu vois, la livre sterling, ce n'est pas une monnaie de tempête, c'est une monnaie qui est... Et s'il se passe une tempête, elle a tendance à s'ajuster à la baisse. Donc... Avoir du cash en livre sterling en ce moment, c'est pas une bonne idée. Et alors, on retrouve...
De toute façon, pour tout un tas de raisons, ne serait-ce que politiques...
J'ai pas envie d'avoir de la livre sterling, ouais, en ce moment. Et alors, par contre, il y a une monnaie qui... Vous savez, les Japonais sont jamais nommés par... Ils sont pas pareils, quoi. En principe, quand vous avez une de ces périodes rouges, eh ben, le yen monte. Parce que, justement, Madame Watanabe... Elle a les jetons et elle ramène tout son pognon à la maison aussi vite qu'elle fait, ce qui fait monter l'yen, quoi. Donc, pour les types très habiles qui veulent se protéger contre une hausse des prix du pétrole et qui n'ont pas le droit d'acheter de l'or ou des valeurs pétrolières ou je ne sais pas pourquoi, parce qu'il ne faut pas oublier que les valeurs pétrolières, si vous voulez en acheter, vous êtes, c'est quasiment interdit en Europe. Parce qu'il faut sauver la planète, vous savez.
Oui, bien sûr. Et les bouchons en plastique.
Et donc et
les grenouilles à ventre bleu.
Protéger avec les réglementations européennes et avec les folies écologiques vos portefeuilles contre une hausse des prix de l'énergie aujourd'hui, si vous êtes un gérant ou si vous voulez respecter toutes les réglementations et tout... C'est pas de la tarte, hein.
Là, Patrick Pouyanné, donc Total, encore d'hier, j'ai vu passer un autre filet.
Il est très bien, garçon. D'abord, il aime beaucoup le rugby aussi.
Que, décidément, on lui cassait un peu trop les pieds et qu'il était vraiment à deux doigts d'aller mettre le siège
à New York.
À New York, parce que si ça continuait, il fallait bien que ça cesse.
Voilà.
Donc, il en a parlé deux fois par an, mais là, il avait l'air d'en avoir plein le dos.
Plein le dos. Et donc, ça va arriver...
Faudra pas avoir l'air surpris quand ça arrivera. Ne changera rien pour les porteurs si vous détenez du Total.
Ça ne changera rien, mais on interrompra peut-être un jour la cotation de Total à Paris, ce qui ferait une énorme perte pour Paris. D'ailleurs, ils font tout leur possible pour que ça cesse d'être une place financière intéressante. Donc, Le truc qui serait peut-être intelligent, c'est de vendre ces sterlins et d'acheter du yen, tu vois. Mais vous me direz, acheter du yen, c'est une petite manie chez moi, mais enfin, peut-être un jour ça va marcher, quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire? Si on re-rentre dans une période rouge, il a presque toujours monté, sauf la dernière fois, bien sûr, parce que la dernière fois, c'était quand même une crise avec le Covid et tout, qui était un peu spécial. Donc voilà, ce qu'on voulait vous dire, c'est que. Alors, ça fait déjà un petit moment qu'on parle, mais ce qui se passe est extrêmement important. Pour l'instant, il y a un coup qui est parti, mais il n'est pas encore mortel. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme dans les films d'action américains, tu vois le tireur d'élite qui tire et tu vois la balle qui avance comme ça pour aller taper le pauvre gars à 2 km de là. Mais donc la balle est partie, on la voit avancer, mais pour l'instant, je ne sais pas si elle va toucher quelque chose ou si elle va, il n'y aura rien et qu'elle va retomber de sa propre inertie. Mais le fait que ce soit l'énergie, ça me fout les boules. Et le fait en plus que toute la mantra logique de tous les gens qui nous gouvernent, c'est en tout cas en Europe, c'est que l'énergie, c'est mauvais.
Oui, bien sûr.
Tu vois, donc je crains que devant une crise de l'énergie, ils ne se mettent à se lancer dans des opérations d'économie, d'interdire les voitures,
Oui, ouais, c'était ce qu'on avait fait en 74. En 74, on avait commencé à faire des choses où il fallait éteindre la lumière. Le Daylight Saving Time, c'était ça. Hein.
Fallait prendre sa douche à deux. C'était une bonne idée d'ailleurs, c'est assez rigolo de prendre la douche à deux, mais en plus ça pourrait résoudre le problème de
De
la
la
natalité,
natalité.
oui, mais moi je trouve la douche à deux.
De trucs en moins. Non, mais après on arrive à des trucs dégueulasses, genre tirer la chasse qu'une fois par jour, enfin ce genre de choses, enfin des
Mais
trucs qui n'ont rien à voir.
ils
Et
vont, donc
des.
j'ai peur qu'ils prennent des mesures, si tu veux, qui vont encore rendre l'utilisation de l'énergie plus chère à un moment où il faudrait la rendre moins chère. Donc, plutôt que ce qu'il devrait faire aujourd'hui en France, par exemple, c'est de baisser la taxe pétrolière et tout pour éviter que les gens n'en prennent trop la tête. Mais comme on a des déficits monstrueux et que c'est un poste important, on va pas le faire. Donc, je suis terrifié par l'inventivité des gars à Bercy, quoi.
Ah bah, de toute façon, la grande idée, c'est quand même de distribuer les tickets de pain. Donc,
Là,
on se retrouverait avec des trucs, j'en peux,
des tickets d'essence.
entre 20h et, 20 et minuit, vous n'avez plus le droit à Internet ou ce genre de choses où on coupe l'électricité de temps et vous n'avez plus que ça. Comme, je ne serais pas surprise plus que ça. Ils ont mis en place tous les compteurs Linky qu'il faut pour, hein.
Oui, donc c'est ça qu'il me faut la trouille, c'est que donc on risque d'avoir un problème d'énergie. Et ce qu'il y a de certain, c'est que les corgnos qui nous gouvernent, c'est comme quand on avait eu un problème avec une grippe qui s'appelait le Covid et qu'on a tout arrêté, qu'on a foutu des vaccins à tout le monde et que l'économie mondiale s'est arrêtée. Donc, s'ils font ça, il est évident que le prix de l'énergie baissera après, mais après avoir fait des dégâts sur l'appareil productif. Alors, ce qui s'était passé dans les années 80, quand ça avait monté, comme ça, c'est que l'Amérique latine avait sauté. J'ai souvent
Oui,
ri.
l'Argentine.
L'Argentine, le Brésil, tout ça avait sauté. Maintenant, quand un système, tu as une chaîne, tu sais, comme ça, et la chaîne n'est pas plus solide que le maillon le plus faible.
Bien sûr, toujours.
Toujours. Et donc, j'essaye de me dire, mais quel est le maillon le plus faible aujourd'hui? Alors, je pose la question aux gens, à votre avis, quel est le maillon le plus faible? Quel est le maillon le plus faible? Ils me regardent avec l'air bête et ils me disent, c'est l'Europe, quoi.
C'est l'Allemagne.
C'est l'Allemagne, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est là, me semble que.
Bah, il me semble que l'Allemagne, bon, d'accord, là, ils ont commencé à brûler du charbon, mais ils sont quand même très dépendants pour leur énergie de nous, la France, de.
Et ils ont surtout des industries
Très consommatrices.
qui sont très utilisatrices d'énergie, par exemple les voitures et et
La
la chimie
série,
lourde,
oui.
les chimies lourdes et tout ça, même faire des armes, la chimie lourde et les aciéries, tout ça, c'est très consommateur d'énergie. Donc,
Oui, ils ne sont pas en train de coudre des sacs Hermès à la main.
Et en plus, j'ai vu
quoi.
Qu'ils commençaient, comme je vous l'avais dit déjà depuis un certain temps, qu'ils commençaient à avoir des problèmes de financement des retraites monstrueux, parce que bah, avec la baisse de Bund, ça ne marche plus. Donc je me dis que le cœur de la bêtise économique depuis la chute du mur de Berlin, ça a été quand même l'Europe. Les États-Unis faisaient leur mieux aussi, mais ce n'est pas l'Europe du Nord. C'est-à-dire le Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande, ça, c'est des pays qui continuent à être bien gérés, tout en étant des social-démocraties. Donc, c'est pas la social-démocratie qui est en cause, c'est la façon dont ça a été géré chez nous, quoi, tu vois. C'est-à-dire de recourir à la dette pour essayer de mettre la poussière sous le tapis. Donc, vous prenez la liste des pays les plus endettés, vous la croisez avec la liste des pays les plus sensibles à une, dans le PIB, le plus sensible à une hausse du prix de l'énergie, et vous savez où vous devez pas être, quoi.
Voilà. Mais écoutez, je pense
c'était,
qu'on a fait.
C'était compliqué, hein. Vous aurez peut-être besoin de l'écouter une ou deux fois. C'était compliqué, c'est pas facile, mais c'est un moment important. Alors j'ai fait de mon mieux, mais c'est pas facile d'expliquer une vie de travail, si vous voulez, en 40 minutes, mais voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire, quoi.
Donc vous avez là la substantifique moelle.
Voilà.
On a été passablement aidé.
Par le corneau, là.
Par d'aucuns.
Qui se
reconnaîtra. Qui se reconnaîtra,
oui. Surtout en début d'émission.
D'ailleurs, vous devez savoir que si je mets le beau pullover, c'est que je vais dire des trucs importants.
Oui, voilà.
C'est quand vous verrez le beau pullover, c'est que vous direz « Oh là là là, qu'est-ce qu'il va nous dire encore
?» C'est qu'on revient aux fondamentaux. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que d'ici là, le monde n'aura pas explosé, que le détroit d'Ormuz se portera bien, que...
On va le rouvrir, que...
Voilà, et que tout se passera bien pour nous. En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions. Peut-être que la semaine prochaine, on fera une émission dédiée à vos questions, justement.
Oui, à vos questions sur tout ça, justement. C'est... Parce qu'encore une fois...
Sur ça et sur la...
Ce qui se passe là-bas. Parce qu'encore une fois, vous avez un problème de l'énergie qui arrive. Il y a des... Prenez un pays comme la Chine. Bon, ils ont fait plus d'un an de réserve de pétrole. Ça correspond à peu près à 10 à 15% de leur consommation d'énergie. Et comme me disait Louis hier, de toute façon, les Chinois, s'ils commencent à avoir des problèmes d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz, enfin, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire à toutes les gens qui ont des voitures, ben, vous prenez pas vos voitures, c'est pas électrique.
Oui,
quoi.
Et là-bas, ils le font. Enfin, je veux dire, ils sont pas...
Là, ils sont pas... Et puis, il y a des voitures électriques, et puis, il y a des transports en commun,
et puis, ils font des bus, et puis, voilà. Oui, bien sûr.
Donc,
dans l'ancien pays de l'enfant unique, il n'y a aucun problème à suivre les règles. C'est voilà. Pas comme chez nous.
Donc, tandis que là, chez nous, si vous voulez, aujourd'hui, ben, si vous dites aux paysans, ben, vous pouvez plus rouler en voiture parce que vous avez vous roulez au diesel et vous fumez des clopes.
Attends, alors déjà là, on a un problème parce que bon, on le voit nous l'été quand on est à Montfavet et tout ça. Les gens prennent l'habitude, enfin, ont besoin d'aller chez Auchan. Il n'y a plus rien en centre-ville. Ils sont obligés d'aller chez Auchan avec leur bagnole, ne serait-ce que pour acheter du pain et leur viande. Donc tu dis aux gens, vous prenez pas leur voiture, vous êtes
si
bien gentil, mais comment
des,
je fais ?
Si tu fermes des écoles primaires dans beaucoup de petits villages parce qu'il n'y a pas assez d'enfants, bah, il faut amener l'enfant au village central où il y a une école.
Encore, il y a des bus de machin.
Il y a des bus,
bon,
y a des bus de machin, mais les bus de machin, ils brûlent du gaz.
Oui, mais enfin, au moins, tu en mets plusieurs des enfants, tu vois, c'est pas un par un.
Voilà, donc vraiment, c'est... cette crise de l'énergie risque de faire beaucoup de mal à ceux qui ont très mal géré depuis des années. Alors, si elle se produit.
Si elle se produit. Bon, en tout cas, tout est en place pour qu'elle se produise. Donc, on va attendre.
On va surveiller.
En serrant les fesses, proverbialement.
En serrant les fesses. Et ne croyez pas un mot de ce que vous disent les gens, etc. Alors, il y a quelque chose que j'aurais dû dire, c'est que le prix du pétrole à un an, il était à 100. Mais le prix du pétrole au spot, c'est-à-dire si vous l'achetez de tout, et le prix du pétrole à un an, il était à 69. Donc, vous aviez ce qu'on appelle une backwardation, c'est-à-dire un déport. D'habitude, le prix du pétrole dans un an, il est un peu plus cher que le prix du pétrole aujourd'hui. Là, il était beaucoup moins cher. Donc, s'il faut surveiller, c'est pas tellement le prix du pétrole aujourd'hui, parce que là, il y a tous les gars qui sont short qui essayent de se courir. C'est le prix du pétrole à un an. Si vous voyez le prix du pétrole à un an commencer à monter, à ce moment-là, vous...
Tous aux abris. Eh ben, merci beaucoup. Papa, pour cette très belle émission, on a appris plein de choses, on a bien travaillé et on vous dit donc à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup.
Merci.